Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que je viens de finir qui s'appelle The Coming Wave et qui a été écrit par Mustapha Suleiman. Alors, ce livre me semblait intéressant à lire parce que c'est un des rares livres sur l'intelligence artificielle qui a été écrit par un des acteurs de l'intelligence artificielle, notamment de la vague moderne comment dire, du deep learning et plus précisément de l'IA générative. Alors, Mustapha Suleiman, à l'origine, c'est un des cofondateurs de DeepMind. Hein, c'est un Britannique, donc DeepMind qu'il avait cofondé avec Demis Hassabis, qui en est encore aujourd'hui le CEO, et à vrai dire même le CEO d'une entité plus large au sein de Google, et Shane Legg. Donc ils étaient trois à avoir cofondé DeepMind. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Mustapha Suleiman, c'est quelqu'un qui n'a pas un background dans la tech en tant que tel. Ce n'est pas un informaticien de formation. Au contraire, il a étudié comment dire, disons que les sciences humaines plus que les sciences dures, et il a commencé sa carrière notamment en aidant lors de négociations sur le réchauffement climatique, par exemple. Il a voulu lancer une ligne téléphonique de soutien aux musulmans au Royaume-Uni, par exemple, entre autres expériences. Et donc, il a fini par rencontrer Demis Hassabis, ils ont fondé DeepMind, et DeepMind a été revendu à Google, devenu Alphabet. En 2022, il en est parti, et puis il a fondé Inflection AI, avec notamment Reid Hoffman. Reid Hoffman, c'était le fondateur comment dire, de LinkedIn, qui a été racheté par Microsoft. Reid Hoffman, il était aussi au board de OpenAI, et puis il en était parti justement quand il avait lancé avec Mustapha Suleiman Inflection AI. Inflection AI, c'est donc une des entreprises qui s'est lancée à la suite de l' enfin qui s'est lancée au moment de l'explosion de l'IA générative, et il propose un agent qui s'appelle Pi, pour Personal Intelligence, avec lequel dialoguer, qui est censé apprendre à nous connaître, etc. Alors, qui, de prime abord, n'a pas l'air d'avoir un avantage extraordinaire sur ce qui se fait par ailleurs. Mais bon, c'est quand même un des acteurs clés du marché qui est là depuis l'époque DeepMind. Donc, je me disais que c'était intéressant de lire son livre The Coming Wave, dans lequel il. The Coming Wave, donc un livre dans lequel il explique ce que sont les opportunités, les enjeux et les risques en fait de cette révolution technologique. Alors plus précisément, son livre c'est The Coming Wave, la vague qui arrive, donc deux points, technologie, pouvoir et le plus grand dilemme du 21e siècle. Voilà. Donc dans ce livre, évidemment, il revient un peu sur les derniers développements de l'IA, mais aussi plus largement aussi ce qui se passe dans le domaine des biotechnologies, sachant qu'il explique qu'il y aura bien sûr des ponts entre ces deux domaines. Et disons qu'il nous explique, bon, sans grande surprise, que ces technologies sont pleines de promesses et pleines de périls, et notamment, il revient sur quatre attributs qui caractérise cette révolution. Donc, la première, c'est qu'on a affaire à des technologies qui sont de plus en plus multi-usages. Et à ce titre, en fait, elles sont difficiles comment dire, à compartimenter, à interdire, à encadrer, parce qu'en fait, comme elles peuvent servir à tout, c'est difficile donc par exemple, de les interdire et de les contenir. Deuxième point, elles évoluent très vite. Donc on a du mal vraiment enfin, je veux dire, on essaie de légiférer aujourd'hui, mais d'ici à ce que de nouvelles règles puissent être décidées, entre-temps, la technologie a déjà évolué énormément. Troisième point, elles peuvent maintenant presque opérer en autonomie. Donc ce côté autonome présente des avantages, mais bien sûr des risques, on l'imagine. Et un quatrième attribut qui pour moi n'est pas vraiment indépendant des autres, mais plus la conséquence des trois premiers, c'est que il offre une capacité d'impact asymétrique. Entre guillemets, ça permet aux faibles de pouvoir faire jeu égal avec les forts. Et donc toutes ces interactions entre ces nouvelles technologies, que ce soit dans l'informatique ou dans les biotechnologies, derrière aussi. Peuvent venir renverser l'ordre établi pour ce qui est de l'équilibre subtil entre attaque et défense, dans plusieurs domaines, notamment dans le hacking informatique, dans le domaine militaire, par exemple. Donc, il se pose cette question-là à travers tous ces domaines et en fait, il nous explique que si, et bon, je trouve pas ça forcément fondamentalement très original, mais bon, je le résume quand même, si bien sûr ça devrait nous permettre de faire toujours plus avec toujours moins et de résoudre toutes sortes de problèmes, de maladies, permettre une abondance à plusieurs niveaux, etc., ça devrait aussi occasionner toutes sortes de disruptions, ça devrait pouvoir permettre à quelques cinglés de causer énormément de dommages collatéraux. D'une certaine manière, le génie est déjà sorti de la bouteille. C'est quasiment impossible de pouvoir contrôler ou suspendre ces progrès parce qu'ils ne sont pas le fait juste de quelques-uns. Ils sont distribués assez largement. On a aujourd'hui des milliers de chercheurs dans tous ces domaines. Même si on pouvait contrôler une ou deux grandes entreprises, en fait, les enseignements finissent par filtrer et se répandre. Et donc, on a affaire là à une course finalement inarrêtable. Et la question, ce n'est pas d'arrêter cette course parce que c'est impossible et que ça n'est pas d'ailleurs désirable, puisqu'il y a tellement de bienfaits à en retirer. La question, c'est de savoir comment on l'encadre, comment on peut la réfréner, en éviter les pires excès. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce constat, je pense que il est assez facile à partager. Alors certains, comme Yann LeCun, pour lequel on aura toujours la sympathie, parce que c'est un Français et qui est donc un des pionniers dans ces domaines, lui, Yann LeCun, n'est pas du tout inquiet. Hein, donc je pense que c'est vraiment aussi à lui que s'oppose quelque part quelqu'un comme Mustapha Souleymane et d'autres qui sont quand même inquiets. Yann LeCun, pour lui, c'est qu'une technologie de plus parmi d'autres. Et comme pour toutes les autres technologies, on la construit pas à pas, on va mettre en place des garde-fous. Le génie ne nous échappera pas, on le gardera sous contrôle, on pourra donner de l'autonomie d'action et de la comment dire donc la capacité vraiment à accéder au reste du monde et agir sur le reste du monde et de l'intelligence, donc la capacité à le faire intelligemment avec efficacité. On pourra donner toujours plus de ces capacités aux machines et pour autant elles ne nous échapperont pas parce qu'on arrivera à encoder assez de garde-fous. On va le faire progressivement et même s'il pourrait y avoir des excès, disons que la communauté des chercheurs bien intentionnés sera toujours plus large, aura toujours un temps d'avance et on pourra, au final, comme il le dit, les good robots pourront toujours battre seront toujours plus forts que les bad robots. Donc il faut satisfaire de cette conclusion avec Yann LeCun, mais avec un côté bien sûr qui pas vraiment rassurant. Et donc c'est ce qu'explique Mustapha Souleymane. Et donc voilà, Mustapha Suleiman se dit inquiet par les possibles périls qui nous font face, même si bien sûr il y a des bienfaits. Et donc il entend proposer une série de solutions qui sont en fait des solutions de bon sens. Et en réalité, même si ces solutions sont de bon sens, on s'aperçoit qu'elles vont être très très difficiles à mettre en place parce qu'elles supposent en fait d'une certaine manière de mettre d'accord la plupart des chercheurs entre eux, la plupart des entreprises entre elles et aussi la plupart des États entre eux, sachant que bien sûr on a cette concurrence effrénée entre notamment la Chine et les États-Unis, il y a des enjeux militaires derrière, il y a ce côté multi-usage comme on le disait. Tout cela, en fait, quelque part, est assez déprimant, finalement. Donc, soit on se range du côté de Yann LeCun pour qui, finalement, circuler y a un avoir, on s'en sortira très bien, ou alors on se range du côté de ceux qui sont inquiets, mais quand on voit les solutions proposées par ceux qui sont inquiets, on a un peu envie de se dire que, finalement, on n'y arrivera jamais, quoi. On ne pourra jamais vraiment se mettre d'accord tous assez tôt, assez bien. Du fait de l'élan extraordinaire des progrès dernièrement et des progrès à venir. J'en profite pour comment dire rappeler quelques faits intéressants que cite le livre. Donc le fait, par exemple, que la comment dire la machine à imprimer, la presse au Moyen Âge a permis de réduire le coût de fabrication d'un livre par un facteur de 340, donc ce qui a permis bien sûr la diffusion du savoir, hein, comme on le sait. D'ailleurs, un sujet lié, c'est alors d'ailleurs c'est une anecdote que cite souvent Yann LeCun. Il explique qu'un exemple où on a interdit une nouvelle technologie, c'est justement l'Empire ottoman où le sultan a interdit l'usage des machines à imprimer, des presses. Et en fait, ce qu'explique Mustapha Suleiman dans le livre, ce n'est pas tant qu'il l'a interdit, c'est que du fait des caractères arabes qui étaient utilisés, L'investissement de départ était bien plus élevé qu'en Europe avec les caractères latins. Et donc, finalement, seul le sultan pouvait se permettre de financer au départ l'essor de l'imprimerie. Ce qu'il n'a pas voulu faire, voilà, pour des raisons idéologiques et diverses. Donc, mais évidemment, avec le temps, ses coûts ont fini par baisser et l'imprimerie a fini par se répandre même dans l'Empire ottoman. Mais ça a mis du temps, et donc, à ce titre-là, l'Empire ottoman et le monde arabe. A pris du retard sur ces sujets. Un autre exemple, bon, assez connu, c'est le président d'IBM dans les années 40, Watson, qui disait qu'il y avait de marché pour les nouveaux ordinateurs que pour un ordinateur, en fait, ou quelques-uns, une poignée. Voilà. Donc évidemment, on sait ce qu'il en est de ce genre de prédiction aujourd'hui. Il cite aussi, je crois, l'année 1958 où un seul transistor a été produit, enfin, comment dire, 150 transistors ont été produits sur cette seule année, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on en produit apparemment des trillions par seconde. Des transistors, et on en met beaucoup plus sur une puce qu'avant, hein, c'est la fameuse loi de Moore. Et donc, pour en revenir à la difficulté à contenir l'essor de technologies qui peuvent se révéler aussi dangereuses, il revient sur comment dire, le développement des programmes nucléaires militaires, et si Dieu merci, évidemment, aucune catastrophe ne s'est produite depuis la Seconde Guerre mondiale, ça ne s'est pas fait sans vraiment situation. Très compliqué où finalement tout à failli basculer, hein. Il s'en est fallu peu à plusieurs reprises. Il y a eu des dizaines d'occasions où finalement ça s'est joué à peu, dont certaines très critiques, dont une poignée de situations où ça a été très critique, on a frôlé la catastrophe. Alors je vais pas revenir dans le détail, mais ça peut se retrouver dans le livre ou sur Wikipédia. On a aussi, ouais, rien qu'entre, je crois, les années 2000 et 2010, il y a eu plus d'une dizaine d'incidents nucléaires sérieux, donc qu'on finit par être mis à jour en Russie. Alors, on n'en connaît pas trop les détails. On parle aussi de matériaux nucléaires, donc du plutonium, qui aurait été volé aux États-Unis, qui aurait disparu dans la nature, donc du plutonium et du césium en 2018, par exemple, qui ont été volés dans la voiture d'un officiel, donc d'un haut fonctionnaire au Texas. Bon, bref, il y a eu toutes sortes d'exemples qui montrent que finalement, on a quand même beaucoup de mal à encadrer ça parfaitement. C'est la même chose pour ce qui est des biotechnologies. Les fuites qu'il y a pu avoir ou les incidents qu'il y a pu avoir dans des laboratoires qui sont normalement censés être très protégés, c'est des laboratoires qui manipulent les agents pathogènes les plus dangereux, les virus les plus dangereux. En fait, il y en a vraiment légion. Il y a de fortes chances, il y a fortes raisons de penser d'ailleurs que ce qui s'est passé avec le Covid à Wuhan, comme par hasard, c'est là où on a un des labos, ou peut-être le labo le plus avancé sur la recherche sur les coronavirus, et c'est là-bas qu'a démarré comment dire, la pandémie. Alors évidemment, on n'a pas le fin mot sur cette histoire, mais en fait, quand on regarde l'histoire comment dire, de la sécurité de ces labos, il y a eu de nombreuses fuites et incidents, et donc ça laisse présager que finalement, d'autres pandémies d'origine humaine ne sont qu'une question de temps, malheureusement. Et pour en revenir au progrès sur l'IA, donc il propose un nouveau Turing test. L'idée, ce serait de confier à une IA la mission d'aller gagner 1 million de dollars en faisant du e-commerce, hein, via Amazon, avec seulement 100 000 dollars de dépenses. Donc voilà son nouveau Turing test, hein, pour vraiment pouvoir détecter un niveau d'intelligence quasi humain ou humain, disons-nous. Il explique que ça devrait pouvoir s'envisager avec un peu d'aide encore humaine dès cette année, l'année prochaine, et de façon complètement autonome, très certainement à ses yeux, avant 5 ans. Donc avant 5 ans, un des acteurs, on va dire, clés historiques de l'IA moderne, considère qu'avant 5 ans, un système d'IA pourra, en autonomie finalement complète, aller lancer un business sur Internet et s'enrichir. C'est quand même assez troublant quand on y pense. Autre anecdote liée à l'innovation que j'ai découverte. Hein, alors John Deere, c'est le groupe qui fabrique des tracteurs aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors il a à l'origine, donc John Deere, c'était donc bien quelqu'un, évidemment, un forgeron, qui a compris que finalement les engins agricoles utilisés à l'époque, notamment les charrues, en fait, utilisaient du fer qui était assez cassant, et le sol des prairies du Midwest était très fertile, mais très dur. Et donc, la technologie utilisée jusque-là, finalement, n'était pas adaptée. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser l'acier plutôt que le fer? Donc, l'acier est plus solide. Et c'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas encore mis au point un moyen de produire de l'acier assez bon marché en masse, etc. Et quand ces technologies ont fini par être mises au point, lui, il a pu se positionner en leader sur le sujet. Et c'est notamment grâce à ces technologies qui ont donc été ensuite copiées que finalement, le reste des États-Unis a pu être ainsi colonisé par toutes sortes d'aventuriers qui sont venus s'installer et qui ont pu cultiver ces terres fertiles car ils avaient enfin le matériel adéquat. Donc le passage du fer à l'acier pour les charrues en fin de compte. Autre fait historique intéressant, donc il revient sur le boom du train en fait au Royaume-Uni dans les années 1840. Il explique qu'à un moment donné, toutes les entreprises dans le domaine de la construction de chemin de fer et de l'opération de mines de chemin de fer, etc., toutes ces entreprises réunies représentaient 2/3 de la valeur totale des entreprises cotées en bourse à Londres. 2/3. Donc assez impressionnant. Évidemment, c'est ce boom du transport ferroviaire qui a permis l'essor du tourisme. Au Royaume-Uni, d'ailleurs, l'agence de voyage Thomas Cook est née à ce moment-là, il me semble. Et comment dire, c'est aussi l'essor du chemin de fer qui a imposé en fait à chaque pays de se doter d'une heure commune entre toutes les villes. On a vraiment cherché à uniformiser le temps en fait, le synchroniser l'heure qu'il était au sein d'un même pays pour le côté pratique requis par le transport ferroviaire. Pareil, au XIXe siècle, l'invention, la mise au point de la machine à coudre a fait passer le temps nécessaire pour coudre, fabriquer une chemise de 14 heures à 1 heure. Donc on imagine le temps gagné par tous les ouvriers du textile. Il revient aussi sur un acte de piratage informatique assez incroyable hein, qui date de 2017 avec le virus qu'on a appelé WannaCry qui est venu geler toute une série de systèmes de santé au Royaume-Uni, les systèmes informatiques d'hôpitaux et d'autres institutions ainsi que d'un certain nombre d'entreprises. Alors, ce virus était extrêmement donc viral et extrêmement efficace. Bon, il a quand même pu être en quelques jours neutralisé, notamment parce que ça a exploité une faille de Windows, des systèmes de Microsoft. Donc, Microsoft a pu résoudre le problème en quelques jours. Un hacker, on va dire, vertueux, avait aussi trouvé une solution pour aider, etc. Donc, il semblait qu'on a eu un peu de chance. Donc, la question se pose de savoir si à l'avenir, on pourrait pas faire face à des attaques encore plus dangereuses, plus viral. Alors, ce virus avait été en fait mis au point par la NSA, donc l'institution, l'agence de renseignement américaine, la NSA, mais avait été volé, piraté par un hacker qui l'avait revendu sur le dark web aux Nord-Coréens. Donc, ce sont les Nord-Coréens qui en fait ont relâché ce virus sur Internet, enfin sur ses cibles. Donc, un scénario assez hallucinant et c'est vrai qu'on peut se demander ce qui pourrait en être à l'avenir, notamment du fait de l'IA. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des virus bien plus difficiles à contenir, à neutraliser, si ces virus sont en fait dotés d'une capacité à analyser un peu leurs menaces et pour mieux se protéger, etc., se dissimuler, ressurgir ici ou là. Donc évidemment, ça peut laisser imaginer toutes sortes de fantasmes. Et donc ça nous amène aussi à ce sujet de la symétrie. Est-ce que l'équilibre attaque-défense est bouleversé? Alors, au-delà de cet incident de 2017, il faut quand même noter qu'aujourd'hui, évidemment, énormément de systèmes sont digitalisés. Hein. On vit quand même très largement dans le digital, notamment le système bancaire. On a tous nos comptes en ligne et tout. Et pour autant, on n'assiste pas à un effondrement, à un piratage de banque si souvent que ça. C'est extrêmement rare. Donc, finalement, les incitations sont pourtant là pour tous ces hackers à aller détrousser les banques ou les comptes en ligne, ici ou là. Donc les incitations sont là, le talent est là, mais pour autant, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que finalement, la défense semble encore assez solide. face aux attaques possibles de piraterie informatique. Alors peut-être que cet équilibre va changer, mais bon, à voir, ce n'est pas évident parce que, alors l'argumentation que fait Mustafa Suleiman, c'est de dire que l'IA, ces nouvelles technologies vont pouvoir permettre aux faibles de faire jeu égal avec les forts. Mais si les faibles, entre guillemets, ou ou des individus dans leur coin peuvent s'armer de ces nouvelles technologies, il ne faut pas croire que les autres resteront de leur côté les bras croisés. Eux aussi vont s'équiper. Et en fait, cette espèce de course à l'armement entre l'épée et le bouclier, entre l'attaque et la défense, c'est quand même le fait de l'humanité depuis la nuit des temps. Donc certes, on va se doter de nouvelles armes, mais on va aussi se doter de nouveaux boucliers. Tout ça ira de concert. Alors, il y aura peut-être quelques excès ici et là, mais qui seront justement l'occasion d'apprendre et de très vite se mettre à niveau pour mieux se protéger compte tenu des enjeux. On peut être certain que les grandes banques, les grands acteurs qui ont beaucoup à perdre sont d'ores et déjà en discussion, en réflexion sur comment faire en sorte de mieux se prémunir. On peut voir que jusqu'à maintenant, quand même, le système tient très largement bien. Donc je le trouve quand même assez pessimiste sur le sujet. Et alors, c'est marrant parce qu'il donne il explique que dans le domaine militaire également, il va être bien plus facile pour quelques acteurs d'attaquer et de conquérir, par exemple, du territoire. Il prend vraiment cet exemple de la possibilité de pouvoir conquérir du territoire plus facilement. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fini d'écrire ce bouquin, au courant 2023 j'imagine, mais on se rend compte en Ukraine que justement c'est toute nouvelle technologie qui permet de détecter les avancées ennemies et les neutraliser à moindre frais avec par exemple des essaims de drones, finalement avantage très largement la défense. Alors c'est ce qui a permis à l'Ukraine de pouvoir neutraliser les colonnes ennemies qui, venant de Biélorussie, s'avançaient sur Kiev au début de la guerre. C'est ce qui a fait aussi, paradoxalement, que la contre-offensive ukrainienne a échoué, parce qu'en fait, dès qu'ils sortaient de leur rang, ils étaient immédiatement détectés par les Russes et neutralisés par l'artillerie russe. Donc il y a une contrairement à ce que dit Mustafa Suleiman, aujourd'hui dans le domaine militaire, notamment du fait des toutes dernières technologies, que ce soit les drones ou même la capacité à suivre ce qui se passe sur le terrain grâce aux satellites, etc., au jour le jour, en fait, c'est la défense qui est avantagée très largement et non l'attaque. Donc ça, quelque part, ça prêche pour plus de stabilité dans notre monde et moins de chaos, contrairement à la thèse avancée par Mustafa Suleiman. Alors, c'est vrai que par exemple, dans le domaine de la génération d'images, les experts disent que c'est beaucoup plus facile de générer des images photoréalistes que de les détecter. Peut-être, mais bon, disons que ça pourrait changer, mais même si on en reste à ça, c'est d'ailleurs, alors pour le coup, une des objections que je trouve pertinente de la part d'Yann Lequin, c'est que ce n'est pas parce que c'est bien plus facile de générer de fausses informations que ça change nécessairement fondamentalement la donne, parce que le sujet, ce n'est pas tant la création de fausses informations. Disons qu'en fait, jusqu'à maintenant, il y avait déjà d'énormes incitations à créer de fausses informations, possiblement, et ce n'était pas le facteur limitant. Le facteur limitant n'a pas été la capacité, par exemple, d'officines secrètes à produire de la désinformation. L'enjeu, c'est de pouvoir la distribuer. Et pour la distribuer, il faut des plateformes. Et sur ces plateformes, on sait bien que le temps d'attention est limité. On n'a que 24 heures dans une journée. Facebook a dû mettre au point un algorithme parce qu'au bout d'un moment, il y avait beaucoup trop d'informations qui étaient susceptibles de pouvoir nous être montrées dans notre newsfeed. Donc il a fallu trier, sélectionner. Et donc l'enjeu, encore une fois, ça n'est pas tant la production d'informations, c'est la capacité à la distribuer. Et je pense que plus que jamais, même si on peut éditer n'importe quel deepfake de n'importe qui en train de faire n'importe quoi, en train de dire n'importe quoi, et au-delà même des images, hein, très bientôt des vidéos photoréalistes, etc. Je pense que, évidemment, le public aussi saura que ce qui semble douteux est sans doute faux. Alors, disons peut-être qu'une partie de la population tombera régulièrement dans le piège. Alors, surtout si c'est très. Alors, c'est ce que dit Mustafa Suleiman, quand même, à mettre à son crédit, ce qui est le plus grossier ou surprenant, sans doute que les gens s'en douteront, mais ce qui est à la limite enfin, ce qui est dans le domaine du plausible, mais faux, pourra quand même être interprété comme vrai, c'est possible. Mais c'est pour ça que les prescripteurs et les médias de référence auront un rôle plus que jamais important à jouer pour jouer le rôle de curateur et nous dire, et nous sélectionner les informations importantes. Donc, les journalistes de terrain, ceux qui peuvent vérifier les informations, tout ça va devenir bien plus important que prévu. Donc, c'est sûr que si on se nourrit d'informations, publié au hasard sur Twitter, ça peut être dangereux. Si on suit des médias sérieux, on peut quand même rester bien informé, même dans un monde où il devient très facile de produire de fausses vidéos. Donc, je pense qu'on peut modérer cette crainte sur justement le déséquilibre entre capacité à produire de fausses informations et capacité à les détecter, en tout cas dans ce domaine-là. Et oui, et donc c'est vraiment un thème récurrent pour Mustafa Suleiman. Il considère que Prime va être à l'attaque, ce sera très difficile de se défendre, mais ce n'est pas comme si tous les acteurs potentiellement vulnérables et qui pourraient être l'objet de cible allaient ne rien faire. Ils vont aussi s'équiper. Donc si tout le monde voit ses capacités, ses moyens augmenter, finalement, on en arrive à continuer à tous plus ou moins se neutraliser. Voilà. Sauf si vraiment. Alors, c'est d'ailleurs un point que ne détaille pas Mustafa Suleiman, mais peut-être le cas de figure auquel il pense, mais qui n'est pas vraiment assez, je trouve, détaillé dans le livre, c'est si jamais un acteur parvient à mettre au point une capacité d'action, un moyen bien supérieur à l'état de l'art, et qui rapidement, sans que les autres puissent derrière, sans que l'information puisse se diffuser assez rapidement, sans que ça puisse filtrer, sans que ne puissent revenir à la charge les concurrents ou les autres acteurs ou les cibles potentielles. Dans un tel cas, et c'est d'ailleurs un des scénarios que craignent ceux qui pensent que l'IA pourrait nous échapper, donc une IA qui dans un coin, grâce à un ultime tweak, un ultime réglage, qui parviendrait à devenir plus intelligent que tout ce qui existe jusque-là, et même les hommes, et qui travaillerait à s'améliorer, et qui chercherait à accomplir la mission qu'on aurait pu lui confier au départ, ou en chemin, à accomplir des objectifs intermédiaires nécessaires à l'accomplissement de toute mission, comme la maximisation de l'accès à l'énergie, l'accès à la matière, le fait de ne pas pouvoir débrancher, etc. Donc, si on a affaire à un tel phénomène, peut-être. Mais en fait, notamment des gens comme Yann LeCun expliquent que c'est très peu probable, car tous ces progrès, en fait, sont le fait de chercheurs qui travaillent, qui sont répartis dans bien des labos, bien des entreprises à travers le monde, et que le savoir filtre toujours en dehors dès que quelque chose est mis au point, et ça finit par se savoir. Donc, c'est très, très, ça paraît difficile d'imaginer que un acteur tout seul dans son coin parviendrait à mettre au point une techno qui serait bien plus efficace de plusieurs degrés que ce qui se fait par ailleurs, et parvenir à garder ça secret assez longtemps pour ne pas laisser le temps aux autres de s'armer, de s'équiper. Enfin, on a vu que la bombe atomique, le projet Manhattan, n'a pas pu être gardé secret, ça a filtré. Les Russes, très vite, les Soviétiques, très vite, ont mis au point leur propre bombe, et ont même testé la bombe à hydrogène Tsar Bomba, qui à ce jour est la bombe la plus puissante jamais testée par les êtres humains. Donc c'est très difficile de conserver un savoir. Et par exemple, il y a aussi une prime aux suiveurs, dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, disons que c'est peut-être OpenAI qui est le labo en tête, mais OpenAI finalement a exploité les percées, comment dire, théoriques, enfin, comment dire, orchestrées par Google en 2017, les Transformers. Donc ils ont fait qu'accélérer, scaler. Améliorer, peaufiner ces travaux-là. Et maintenant, disons qu'ils ont de l'avance sur tout le monde. Mais comme ils se retrouvent à tester toutes sortes d'idées et que ça leur coûte cher, les idées qui échouent, qui ne mènent à rien, qui n'aboutissent pas, en fait, sont très vite partagées avec le reste de la communauté, volontairement ou involontairement, ce qui fait que la communauté, le reste des acteurs, n'a pas besoin de réinventer la roue ou d'essuyer les plâtres à son tour. En fait, il profite, il bénéficie finalement de ces travaux de R&D, de ces travaux de recherche de OpenAI. Donc, ils n'ont pas à perdre cet argent eux-mêmes, puisque c'est OpenAI qui le perd pour tout le reste du secteur. Et donc, seules les idées qui fonctionnent, finalement, sont reproduites ou émulées comment dire, améliorées par les concurrents qui évitent de perdre du temps sur des pistes qui n'ont déjà rien donné chez OpenAI qui fait la course en tête pour l'instant. Donc, c'est donc bien sûr un moyen ça complique donc la tâche pour OpenAI. En tout cas, ça rend plus difficile pour eux comment dire, le fait de continuer à faire la course en tête pendant bien longtemps, ou de distancer ses concurrents. Et inversement, les concurrents, eux, ont un moyen de rester dans la course, et même de rattraper OpenAI en n'ayant pas le besoin de repasser par les erreurs d'OpenAI. Voilà. Donc, en fait, quelque part, tout dépend de la capacité à mettre au point un système extrêmement performant dans son coin, sans que ça puisse filtrer partout ailleurs. Tout l'enjeu est là. Alors, ça, il n'en parle pas vraiment, Mustapha Suleiman. Il ne présente pas l'enjeu exactement comme ça. Et beaucoup pensent que ça n'est pas vraiment possible, hein. Notamment Yann Le Cun qui lui dit que tout ça avance finalement assez doucement et aussitôt ou presque partagé par le reste par le reste, avec le reste des acteurs, hein. Et encore une fois, on voit aussi le fait que très vite Meta est revenu à la charge avec ses propres modèles et les a rendus plus ou moins open source avec le modèle Llama et ses successeurs, et que finalement la communauté open source derrière est capable de profiter de modèles très très performants, même si OpenAI est encore en tête, l'écart se réduit. Et donc tout ça rend compliqué le fait d'avoir un acteur qui va pouvoir derrière avoir une avance trop grande sur les autres. Et donc on assiste donc à une espèce de course entre tous les acteurs pour s'équiper. Et donc chacun peut finalement neutraliser autrui et ça devrait limiter un bouleversement fondamental des rapports de force entre les différents acteurs de ce monde, hein, que ce soit au niveau militaire, économique. Etc. Alors, il revient par ailleurs sur un incident assez troublant. En 2021, un chercheur d'une entreprise pharmaceutique aux États-Unis, hein, donc dans un laboratoire à Philadelphie, aurait laissé des fioles contenant la variole dans un réfrigérateur non sécurisé auquel avait accès par exemple le personnel d'entretien. Et donc des fioles qui auraient pu se briser et se répandre finalement dans la nature, sachant que la variole, hein, c'est aussi virale que les souches les plus virales du Covid, et c'est 30 fois plus mortel. Donc ça a occasionné entre 300 et 500 millions de victimes, hein, de morts au XXe siècle. Donc on n'est pas passé loin de potentiellement quelque chose de très dangereux, on se rend compte une fois de plus. Et un rapport aux États-Unis de 2014 explique que les chances, enfin la probabilité de fuite grave d'un tel labo, donc ces chances sur une décennie sont de 90%, et que derrière les risques de pandémie mondiale sont de plus de 25%. On sait ce qui s'est passé avec le Covid derrière. Alors, est-ce que ça vient de causes naturelles ou d'une fuite d'un labo, on ne sait pas, mais en tous les cas, le risque existe véritablement, il a même été mesuré, donc ça semble encore une fois n'être qu'une question de temps avant une prochaine pandémie, et il faut savoir qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces virus à les rendre plus viraux et plus mortels, justement pour savoir comment, pour anticiper comment ils pourraient évoluer. On appelle ça en anglais gain of function, GOF, gain of function research. Et voilà, l'idée est de comprendre comment ils pourraient muter, comment ils pourraient devenir dangereux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre, pour essayer d'avoir un temps d'avance. Mais vous imaginez bien les risques. Si derrière on met au point au laboratoire quelque chose de plus viral, de plus mortel, avec par exemple un temps d'incubation plus long qui fait qu'en fait on est contaminé mais on n'en ressent pas les symptômes pendant un certain temps, ce qui fait qu'en fait on peut contaminer d'autres avant soi-même de comprendre qu'on est finalement contaminé et vulnérable. On parle donc là d'un virus qui peut se répandre à toute la population humaine presque en peu de temps, et si en plus il a un taux de mortalité très élevé, donc ça pourrait même derrière conduire à faire disparaître l'essentiel de l'humanité quand on y pense. Donc cette menace vraiment d'un agent pathogène extrêmement létal et viral est une des menaces qui plane sur nous, et ça pourrait, d'après Mustapha Suleiman, hein, c'est un risque qui n'est qu'amplifié avec l'essor de l'intelligence artificielle qui peut permettre d'identifier des moyens de mettre au point ces virus de façon plus efficace, plus rapide, etc. Mais que faire? Que faire? Renforcer la sécurité, toujours et encore, mais on voit bien qu'il y a malgré tout des failles. Donc là, bon, il se contente de pointer la menace. C'est pas évident de savoir exactement ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui. Il faut qu'on vive avec. Il revient aussi un moment sur une innovation dans le domaine militaire très importante, mais dont je n'avais pas conscience de la pleine mesure, l'invention de l'éperon. De l'éperon qui permet donc à un cavalier de faire corps avec son cheval. Il explique que jusque-là, la cavalerie n'avait pas représenté une menace si grande que cela, dans l'histoire militaire, parce que c'était très facile de désarçonner un cavalier qui était simplement assis sur le cheval, mais pas vraiment attaché au cheval, ou en tout cas solidaire à son cheval via les éperons. Alors pardon, je voulais pas dire éperon, je voulais dire étrier. En anglais, on appelle ça stirrup. Et donc voilà, avant l'invention de l'étrier, un cavalier en fait n'était pas proprement solidaire son cheval, non pas attaché, mais suffisamment bien accroché en fait à son cheval. Et donc c'était facile de désarçonner. Des fantassins pouvaient arrêter une charge de chevalerie assez facilement. Quand on a mis au point l'étrier, d'un coup, le cavalier devenait bien plus solidaire de son cheval, comme s'il était attaché à son cheval en pleine course, et donc muni d'une lance ou autre arme, il pouvait répercuter bien plus de force sur ses cibles. Il était beaucoup plus difficile à désarçonner, et finalement, presque du jour au lendemain, la cavalerie est devenue redoutable et presque inarrêtable. Et donc, c'est plus la mise au point de l'étrier que la domestication du cheval qui a constitué une révolution d'un point de vue militaire en Europe, notamment au Moyen-Âge, avec l'avènement derrière de la chevalerie. Et comme ça coûtait cher de s'équiper, on a assisté en fait à l'apparition vraiment d'une classe, donc la classe des chevaliers, hein, avec les répercussions notamment sur les différents ordres sociaux, et donc l'émergence, le renforcement de la féodalité, hein, cette classe de chevaliers qui pouvait vraiment, qui régnait en maître sur comment dire, les champs de combat, et qui défaisait les batailles et faisait défaisait les empires. Alors c'est marrant parce qu'il en parle notamment en faisant référence à Charles Martel et donc au royaume de France, hein. Alors Charles Martel, qui était un maire du palais à l'époque mérovingienne, à l'époque des rois fainéants, et c'est d'ailleurs, je crois, le grand-père de Charlemagne pour l'anecdote. Bref, tout ça pour dire qu'une invention de l'homme militaire a précipité l'avènement de la chevalerie et a priori derrière aussi l'avènement de la féodalité. En tout cas, l'a renforcé très largement jusqu'à l'invention, la mise au point, comment dire, l'essor de l'usage des canons qui sont venus mettre fin justement à la féodalité. Canons chers à acquérir, à entretenir, que pouvaient se permettre surtout les plus grands seigneurs et les rois, qui ont ainsi pu mettre au pas les seigneurs récalcitrants en détruisant leurs châteaux. Armes à feu qui pouvaient mettre fin plus facilement aux charges des chevaliers, armes à feu aussi, par ailleurs, qui ont permis d'arrêter les invasions venues d'Asie centrale, qui ont permis à la Russie de construire tout son empire, avec tout ce territoire qu'elle possède encore aujourd'hui, faisant d'elle le plus grand des pays. Bon, fin de cette petite parenthèse d'histoire militaire. Après, il parle aussi notamment du risque que des entreprises puissent s'émanciper finalement des nations et avoir toujours plus de pouvoir à un niveau international, transnational. Alors, il prend l'exemple de. Alors, bien sûr, il parle déjà de la Compagnie des Indes orientale britannique, hein, qui possédait sa propre flotte, finalement sa propre armée, qui avait un pouvoir extraordinaire. Il parle plus récemment du groupe Samsung en Corée du Sud, dont les revenus représentent hein, dans ce groupe, au total, 20% du PIB sud-coréen. 20% du PIB sud-coréen juste avec cette seule entreprise et toutes ses ramifications. Donc, assez dingue quand on y pense. Ah, il partage aussi un fait intéressant. eBay et Amazon, via leur système de résolution des conflits entre acheteurs et vendeurs, gèrent 60 millions de litiges, disputes par an. C'est 3 fois plus que le système légal américain. Alors évidemment, on ne parle pas du tout du même genre de litige, mais ça donne comme une idée quand même finalement de ce rôle pseudo-légal que peuvent jouer ces entreprises dans la résolution de disputes entre particuliers. Alors aussi, oui, il explique que ces nouvelles technologies pourraient permettre d'un côté de renforcer des États autoritaires vraiment capables, comme on peut le craindre en Chine, de pouvoir surveiller leur population de façon très envahissante pour savoir tout ce qui se passe et brider toute velléité de révolte et d'insurrection. Ou à l'inverse, ça pourrait permettre à des communautés d'apparaître et de se créer et d'exister en marge des États, en toute autonomie, parce que si demain, avec très peu d'investissement, je peux obtenir ma propre énergie grâce aux renouvelables, si je peux derrière profiter de services digitalisés dont le coût marginal est quasi nul, finalement, des communautés pourraient apparaître et se créer et devenir autonomes avec peu de moyens. Alors, autant effectivement, on peut craindre que certains États deviennent archi, enfin, certains États totalitaires deviennent vraiment orwelliens, des Léviathans qui à même de vraiment subjuguer plus que jamais leur population. Autant j'ai du mal à croire que des communautés puissent vraiment s'émanciper, parce que ce dont on parle là, enfin, pour ce qui est de notre risque extrême, c'est la disparition de l'État-nation. Du fait de cette fragmentation permise par la technologie. Mais on a bien vu pendant le Covid et même avec cette guerre en Ukraine qu'on a quand même besoin d'États-nations pour organiser une réponse à ce genre de menace. On a besoin des États-nations en dernier ressort pour aussi se protéger en cas de guerre. Le commerce, c'est bien, mais on peut pas exister. On peut pas. Le commerce n'est pas possible si on n'a pas une marine de guerre capable de neutraliser les pirates. Donc, de croire qu'on peut recréer comme ça, dans son coin, sur les mers, ou Dieu sait où, ou simplement dans l'univers digital ou dans le métaverse, une communauté, en s'affranchissant complètement des réalités de ce monde, ça paraît illusoire. Et in fine, finalement, toute activité humaine a une empreinte terrestre, il y a besoin de se loger, il y a besoin de serveurs, tout ça doit bien être parqué quelque part, et qui sécurise ces endroits? Donc soit ils sont dans un endroit non sécurisé et on est vulnérable face à des pirates, soit on est finalement dans des endroits sécurisés par, je sais pas moi, les États-Unis par exemple, et donc évidemment on tombe sous le coup de la loi américaine. Donc je vois pas comment, à ce jour. Et c'est un peu un des reproches que je fais à ce livre, c'est que soit on se place à très long terme, et là évidemment toutes les cartes vont être battues, et finalement on ne peut rien prévoir, on ne peut rien anticiper, parce que le progrès technique va encore suivre son cours pendant des décennies, et toutes ces possibilités vont se croiser, s'hybrider, et finalement rien n'est prévisible, on ne peut rien prévoir, et donc finalement ça tue tout de suite le débat. Et oui, dans un tel scénario, on peut imaginer la fin de l'État-nation et même la fin de l'humanité. Ou alors, on se dit qu'on essaie de raisonner, on va dire, à un horizon bien plus court, de quelques années ou peut-être 15-20 ans. Et je ne vois pas à 15-20 ans comment l'État-nation peut disparaître, du fait de son caractère incontournable, de sa maîtrise militaire d'un territoire et de ses ressources, et de la sécurité apportée à toutes sortes d'actifs, d'infrastructures et de la population. Je vois pas comment l'État-nation pourrait disparaître. Le métavers, c'est bien, mais sans les serveurs, sans la sécurité, sans un lit pour dormir le soir, sans de quoi manger, sans énergie, on peut pas aller bien loin. Autre point aussi, donc oui, il explique qu'il n'y a pas de pénurie d'individus nihilistes. Qui souhaitent la destruction de ce monde. Donc, on a des loups solitaires qui, de temps en temps, commettent des massacres. Mais bon, ça reste encore limité, malheureusement. Enfin, heureusement, bien sûr. Mais il dit que parfois, ça atteint d'autres proportions. Donc, on le voit avec évidemment, les organisations terroristes. Et il revient sur un exemple qu'on a peut-être un peu oublié, mais qui s'est produit au Japon, donc dans un pays vraiment développé, dans les années 80, une secte. Aum Shinrikyo, donc dont le nom signifie vérité suprême en japonais, une secte qui pensait que l'apocalypse était proche et que seuls les élus pourraient survivre et qu'il fallait finalement mieux précipiter cette apocalypse histoire de passer à autre chose, etc. Donc ils voulaient en réalité simplement exterminer tout le reste de l'humanité. C'était leur projet. Et ils sont quand même montés à 60 000 membres. Dans le plus grand secret hein, pendant un temps, avec plus d'1 milliard de dollars d'actifs, et ils comptaient parmi leurs rangs notamment des scientifiques de formation, experts de certains domaines, etc. Et c'est eux qui ont répandu du gaz sarin à plusieurs reprises ici et là dans le métro à Tokyo. Mais au final, fort heureusement, Dieu merci, il n'y a eu que peut-être même pas 20 morts en tout. Sur leurs différents attentats, c'est déjà trop, mais ça aurait pu être bien pire. Et la question, c'est de savoir si, vu qu'il y aura toujours des êtres humains pour soit de façon solitaire, soit en s'assemblant en groupe pour chercher finalement à détruire, à nuire, à tuer, est-ce que ces nouveaux outils, que vont offrir l'IA, l'impression 3D, les biotechnologies, etc. Est-ce que ça va permettre à un tel groupe qui apparaîtrait demain d'avoir toujours plus d'impact, bien plus d'impact? Donc bon, bah, j'en ai parlé déjà jusque-là. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que déjà aujourd'hui, très difficile de s'organiser sans laisser de traces digitales. Donc les services secrets, finalement, ont bien plus de prise, bien plus de moyens de aussi détecter ce genre d'agissement. Donc un tel groupe aujourd'hui laisserait sans doute beaucoup plus de traces et serait bien plus facile à identifier. Donc d'ailleurs, on est toujours surpris en France d'entendre le nombre d'attentats déjoués chaque année. Finalement, les services secrets arrivent à déjouer la quasi-totalité des attentats, fort heureusement. Donc la prime à l'attaque, encore une fois, dans ce domaine, pas évident que, enfin, en tout cas, pas évident que à suivre. En tout cas, il y a des raisons de penser que ça ne sera pas aussi simple que ça. Et alors, un autre exemple plus récent, c'est l'attaque surprise du 7 octobre en Israël. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de faisceaux de présomption. L'Égypte avait fourni des renseignements. Les services de renseignement eux-mêmes en Israël sentaient quelque chose se préparer. Mais c'est juste qu'il y a eu un dysfonctionnement politique derrière. Mais sinon, même si apparemment le Hamas agissait dans le plus grand secret sans utiliser de technologies modernes d'information, juste en privilégiant les rencontres en face à face, etc., malgré tout, les services secrets égyptiens et israéliens auraient compris qu'il se tramait quelque chose d'imminent. Donc on voit bien la difficulté d'organiser. Des actes terroristes de grande ampleur, même si bien sûr ils sont difficiles à éliminer. Alors bien sûr, il y en aura toujours, voilà, je pense que pour autant on ne peut pas décréter que d'un coup n'importe qui pourrait finalement pouvoir avoir l'impact incroyable consistant à éliminer des centaines de milliers de personnes, comme il le suggère un peu le livre. Ça me paraît quand même compliqué, difficile à avaler. Alors pour finir, hein, il liste une série d'actions qu'il faudrait entreprendre, qui sont complémentaires. Hein. Aucune ne suffira en elle-même à répondre à ces problèmes, mais toutes prises ensemble peut-être. Mais c'est même pas sûr. Donc déjà, jouer la carte de la sécurité, notamment lors de la construction et le développement de ces outils, de ces nouvelles technologies, il faut absolument qu'une partie des chercheurs de toutes ces entreprises travaillent sur la sécurité. Donc ça, bon, ça paraît assez évident, mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Donc par exemple, très concrètement, ça pourrait consister à imposer à tous les labos qui travaillent sur des sujets de pointe de consacrer 20% de leurs efforts, de leur temps, de leurs chercheurs à justement à étudier les risques et à travailler à y résoudre. Donc faire avancer les connaissances certes, mais aussi la sécurité autour de ces connaissances. Alors d'ailleurs un exemple qui prend dans la lutte potentielle contre de prochaines pandémies, apparemment il y a des lampes qui fonctionnent avec de la lumière. Invisible, hein, donc en dessous même, à plus grande longueur d'onde même que les ultraviolets, une lumière qui tue tous les virus. Donc, par exemple, une des mesures, ce serait pour se prémunir contre la prochaine pandémie, c'est d'équiper le monde entier, et en tout cas travailler à produire ce genre de lampe pour moins cher, en plus grand nombre, etc. Parce qu'elle permettrait de neutraliser une pandémie bien plus rapidement. Ce serait vraiment radical. Donc, j'avais jamais entendu parler de cette histoire de lampe. Avec cette lumière invisible en dessous des ultraviolets, très efficace pour tuer les virus sans abîmer justement la peau, sans nous nuire à nous. Donc on pourrait s'en servir pour voilà pour finalement se désinfecter, enfin en tout cas se nettoyer les objets qui nous entourent sans se mettre en danger nous-mêmes. Donc ensuite autre solution, donc à imposer des audits à tous ces acteurs réguliers. Pour s'assurer qu'ils observent bien donc les règles dont on aura convenu ensemble. Alors, autre exemple de mesure, notamment par exemple toutes les entreprises qui rendent leur technologie accessible à des tiers via des API, des Application Programming Interfaces, comment dire, s'assurer qu'elles connaissent bien leurs clients. Donc, ne pas permettre à vraiment n'importe qui d'accéder à ces API, contrôler qui puisse y accéder, un peu dans une logique know your customer en finance, en banque. Aussi, un des risques, c'était le fait qu'avec les machines qui vont pouvoir synthétiser de l'ADN, elles existent déjà, en fait, si leur coût baisse et que tout le monde peut se les procurer, n'importe qui peut imprimer n'importe quelle séquence génétique, et ça peut permettre de mettre au point des pathogènes éventuellement très dangereux. Donc l'idée, ce serait que de la même façon qu'aujourd'hui, qu'une imprimante, c'est difficile de photocopier, de copier, d'imprimer de faux biais, l'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces machines en vente soient connectées au cloud obligatoirement, ne puissent fonctionner que si elles sont connectées au cloud, et toute demande d'impression d'une séquence d'ADN, d'une séquence de nucléotides, soit d'abord analysée et comparée à une base de données de séquences dangereuses pour savoir si on peut se permettre effectivement de l'imprimer ou pas. Donc imposer un tel équipement, enfin de telles dispositions sur toutes ces machines qui seront en vente partout dans le monde. Bon, ça, pareil, ça semble relever du bon sens, mais on se dit que ça paraît peut-être compliqué de l'imposer, et sans doute qu'il y aura des bricoleurs malins qui arriveront à désactiver ce genre comment dire, de fonctionnalité, à voir. Pardon, pour les lampes à lumière invisible, là, proche des rayonnements ultraviolets, on parle comment dire, on parle de lumière avec une plus courte longueur d'onde, justement, pas une plus longue, autant pour moi. Alors après, sur l'histoire sur notamment le cas de l'IA, il faut être conscient des goulets d'étranglement qui sont justement aussi des moyens de freiner le développement de ces technologies. Alors notamment pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il y en a trois. Il y a le fait que Nvidia est l'entreprise qui conçoit, est l'entreprise vraiment presque monopolistique qui conçoit la plupart des puces qui sont utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA. Donc on a là un moyen en l'encadrant d'éventuellement ralentir, en contrôlant à qui elle vend ses produits, qui derrière travaille sur ces sujets sensibles. Donc associé à ce goulet d'étranglement et celui parce que eux conçoivent les puces, mais ceux qui les fabriquent derrière, le leader, c'est notamment TSMC, hein, donc cette entreprise à Taïwan, qui de loin, pareil, monopolise ce domaine-là. Et eux-mêmes, pour produire, fabriquer leurs puces, ils ont besoin de machines qui sont fabriquées exclusivement par cette entreprise néerlandaise ASML. Donc, si vraiment, enfin, puisqu'on veut contrôler mieux savoir ce qui se passe, il suffit d'observer qui sont les clients de ces entreprises, leur imposer de. C'est déjà le cas, à vrai dire, mais de s'assurer qu'elle ne laisse pas un acteur s'approprier comme ça bien trop d'unités de ces technologies pour travailler dans l'obscurité la plus totale sur ces sujets sensibles. Donc voilà, être conscient des goulets d'étranglement et éventuellement agir dessus si on voulait vraiment freiner. Alors d'ailleurs, ce sont des mesures qui sont proposées par tout le monde, OpenAI en premier. Hein. Sam Altman, dans de nombreuses interviews, il explique que les modèles, on va dire, de pointe les plus avancés, au-delà de et qui requerraient donc un trop grand nombre de ces fameuses puces là qui servent à l'entraînement des modèles, au-delà d'un certain dimensionnement, il faudra absolument que ces modèles, avant d'être rendus publics, puissent être testés, retestés et encore retestés par des auditeurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger présent. Alors évidemment, ça paraît plus facile à dire encore qu'à faire, mais en tout cas, c'est l'idée. Alors après, il explique que ceux qui sont justement critiques de l'IA devraient justement rejoindre ce combat et chercher à, plutôt que de s'y opposer, devraient chercher à, puisque de toute façon ça se développera quoi qu'il arrive, il ferait mieux de rejoindre les entreprises pionnières dans ces domaines pour aider à influencer la façon justement ça se développe. Donc, encore une fois, ça semble relever de bon sens. Et finalement, tout ce livre semble au final être un appel à ses pairs, à ses collègues, à faire preuve de modération, en tout cas à s'accorder tous ensemble sur des limites. Mais je ne sais pas s'il est vraiment écouté. En tout cas, par exemple, Yann Lequin, lui, il considère qu'il n'y a pas lieu de chercher à freiner la recherche. Alors, réguler les produits, oui, mais pas la recherche. Finalement, ce domaine et tous ces acteurs, ils sont très largement divisés. Je ne sais pas si un consensus peut émerger assez vite et sur quel point. Mais ce livre semble à la limite plus s'adresser à ses pairs qu'autre chose. Ensuite, il appelle les gouvernements à coopérer, à se mettre d'accord sur des traités, etc. Donc là, pour moi, on est vraiment dans l'incantation, effectivement. Il y a qu'à Faucon, mais bon, je vois pas comment ça pourrait se produire assez vite, assez bien et être en phase avec les tout derniers développements. Donc, d'une certaine manière, on peut aussi être assez pessimiste, hein, sauf si, encore une fois, on se range du côté d'Yann LeCun qui considère qu'il n'y a pas trop de danger. Alors, Mustapha Souleymane, vers la fin de son livre aussi, explique qu'il s'oppose clairement à ce que justement la recherche de pointe comme ça puisse être rendue accessible en open source. Il dit que c'est trop dangereux, que ça devrait être interdit. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a une opposition frontale, hein, entre certains de ces acteurs. On voit pas comment ils vont vraiment pouvoir se mettre d'accord. Donc, si danger il y a, à mon avis, on est quand même mal embarqué. Voilà, je vais en rester là. J'ai couvert ce qui me semblait important. Il y a quelques redondances, quelques hésitations. J'ai essayé de faire au mieux. Donc, livre intéressant que je voulais absolument lire parce que c'est le fruit de la réflexion d'un acteur, justement, de cette révolution et pas juste d'un spectateur, pas juste d'un commentateur. Donc, mais au final, donc on sent qu'il est inquiet, à la différence de certains de ses pairs, et on sent aussi par ailleurs qu'il finalement il en reste à de l'incantation. Donc ça me laisse un peu sceptique, je reste un peu sur ma faim. Je trouve aussi que par moments il va trop loin dans la dramatisation des risques. Je pense que la prime à l'offense vs la défense me paraît pas évidente dans un certain nombre de domaines. La fin de l'état-nation des états-nations me paraît quand même un peu trop vite annoncée. Donc à vous de voir si vous voulez lire ce livre, mais bon, voilà, 350 pages que j'ai essayé de vous résumer en une petite heure. Désolé d'avoir été un peu long, et merci de votre écoute.